C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris.
C'est dans l'art, votre rendez-vous culturel, un dimanche sur 4 sur le 93.9 FM et sur le canal Campus en DAB+.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à vous qui écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris. Vous venez d'entrer avec nous dans une heure dédiée aux recommandations culturelles de la région de Paris. C'est votre moment pour découvrir de nouvelles œuvres, de nouvelles sorties ou tout simplement de nouvelles idées. Et ce soir, c'est la dernière émission de cette saison. Et j'ai l'honneur de la clôturer avec la fine équipe, celle qui fait vivre C'est dans l'art depuis presque 2 ans maintenant. Ils ont toujours été là pour vous parler de ce qui les passionne le plus. Toujours partager leurs expériences avec leurs mots, leurs ressentis et parfois même leur sensibilité. Tout ça pour le plaisir et surtout pour vous donner envie de découvrir autre chose. En tout cas, ça a marché sur moi. La preuve, depuis que je les écoute attentivement derrière leur micro, j'ai doublé le nombre de films que je suis allée voir au ciné, j'ai découvert 5 romans et BD qui m'ont passionnée et je me suis même mise aux jeux vidéo, pour vous dire. J'ai découvert de nombreuses artistes, appris à penser certains sujets autrement, à travers leurs mots, à travers l'art. Alors j'ai hâte de les entendre encore une fois ce soir sur des sujets qui leur tiennent à cœur et peut-être repartir différentes encore une fois. Je vous propose de faire ce voyage ensemble et d'embarquer. Vous écoutez C'est dans l'art, l'émission de recommandations culturelles du Grand Paris. Et c'est sur Radio Campus Paris. Et on démarre 7h maintenant. De quoi on parle ce soir? Alors, on a Ryan qui nous emmène dans une pièce qui n'oublie rien avec le podcast La Salle des Archives de France Culture. Diane nous emmène dans le quotidien du Liban avec la BD Tous mes pas Beyrouth de Mathieu Diaz et JB. Christophe nous fait monter sur scène avec le roman Des Inconnus à qui parler de Camille Bordas. Jeanne nous fait prendre du recul sur le cinéma avec 2 films, Autofiction d'Almodovar et L'être aimé de Soro Goyen. Et enfin, Hugo nous replonge dans un spectacle culte, Les Demoiselles de Rochefort, joué en ce moment au Lido. C'est dans l'art, c'est en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement, à retrouver aussi sur notre site de radiocampusparis.org, sur le 93.9 FM comme d'habitude en Ile-de-France et sur le canal Campus en DAB+. Et c'est surtout ici et maintenant, c'est parti, on entame notre heure artistique.
C'est dans l'art, un dimanche sur 4 sur Radio Campus Paris.
Et pour m'accompagner ce soir, vu que je les ai si bien introduits, j'ai avec moi autour de la table du studio direct de Radio Campus Paris, Ryan.
Hello.
Diane.
Bonsoir.
Hugo.
Salut.
Christophe.
Bonsoir.
Et Jeanne.
Bonsoir.
À la technique dans la régie de Radio Campus, il y a comme toujours, et avec le sourire, Eléa.
Bonsoir.
Et je suis Léa. Heureuse de vous revoir pour encore parler d'art. Merci à vous d'être là ce soir. C'est parti.
Architecture,
sculpture, musique, c'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Christophe, tu entames cette émission avec la littérature. Tu vas nous parler du roman Des Inconnus. À qui parler? Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Eh ben non.
Comment ça?
Eh ben c'est une blague, voilà. Je vais vous en dire plus tout de suite, parce que c'est un roman qui parle de stand-up et j'ai cru comprendre que bien que n'étant pas un expert dans le domaine du stand-up, il y a souvent un truc qui marche dans le stand-up, c'est prendre le public à rebrousse-poil et comme vous êtes mon public, je vous ai pris à rebrousse-poil. Voilà, j'ai cassé le code, je suis content, c'est le début et la fin de ma carrière dans le stand-up et on passe au livre. Allez, Des Inconnus à qui parler, c'est un très très bon, voire un excellent roman, paru il y a quelques mois et oui, le temps passe vite, où on part à Chicago rejoindre une troupe avec des élèves et des profs qui suivent le premier semestre d'un master de stand-up, le temps d'une journée d'hiver. Si j'ai beaucoup beaucoup aimé ce roman, c'est parce que ça joue sur ce qu'on appelle le campus nouvelle, un genre en soi, le roman qui se passe à la fac.
C'est pas un peu trop dégagé du monde, cette fac en hiver avec des étudiants en stand-up?
Alors oui et oh là, alors on dirait que je fais de la radio. Alors oui et non, oui. Léa. Oui, car tout le monde est obsédé par le spectacle qui doit avoir lieu le soir même avec un cours d'improvisation avec, je dois dire que je dois lire sur un portable et que j'ai du mal. Voilà, je vais faire un vrai numéro de stand-up. J'ai l'impression de passer un test optométrique et c'est assez dur pour moi. Et d'habitude, je lis des feuilles. Voilà, tout le monde saura pourquoi je bégaye. Alors, côté prof, on a les profs. Le roman commence par une réunion de l'équipe pédagogique du département de lettres et la question est savoir si on va ou non accueillir comme prof invité Manny Reinhardt, une star du genre, mais qui est au cœur de 2 polémiques. En effet, d'un côté, il s'est battu avec un rival qui est peut-être plus drôle que lui, puis il a eu des problèmes de comportement avec plusieurs jeunes femmes qu'il aurait promis d'épouser, mais qu'il aurait largué une fois qu'il avait obtenu leur faveur. Toute ressemblance, trois petits points. Ajoutez à cela qu'il y a une alerte au tireur sur le campus qui va bouleverser les plans de bien des personnages. Tout ça pour dire que si ça ne parle pas vraiment de réalité de politique américaine, des révoltes raciales qu'on a pu voir, des Black Lives Matter ou d'événements de ce type, c'est quand même très enraciné dans la réalité, dans la société américaine. Et c'est d'autant plus notable que l'autrice Camille Bordas est française. Alors elle vit aux États-Unis depuis plusieurs années, elle est enseignante en création littéraire, donc elle parle d'un monde qu'elle connaît plutôt très bien. Elle a écrit ce roman en anglais, puis l'a traduit ensuite en français. Et alors, ce qui peut donner des choses très bizarres, moi je m'en suis toujours parmi, c'est prof de Chicago, il parle de l'école des fans. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'école des fans, vous êtes peut-être un peu jeune. C'est un concours de chant pour enfants, dont on voit parfois des extraits sur les réseaux sociaux, et ça se terminait toujours par un « tout le monde a gagné de bonne aloi ». Donc voilà, vous vous retrouvez avec des profs à Chicago. J'ai même été jusqu'à penser que ça avait peut-être été fait volontairement, ces petites dissonances dans les références culturelles, mais si c'est ça, j'ai pas bien compris à quoi elle servait. Mais bon, c'est pas très grave.
Bon, je vois le livre, il fait plus de 400 pages.
Qu'est-ce que vous voyez bien, pas comme moi. Hein.
Merci. J'ai un grand pouvoir de vision. En tout cas, ces 400 pages pour parler d'un master de stand-up, c'est pas un peu beaucoup ?
Je vais vous faire une révélation, Léa. Il appartient à une catégorie que j'adore, je devrais même dire à deux catégories que j'adore. D'abord, c'est une comédie dramatique. On s'amuse, on sourit, on est diverti. Mais il y a quelque chose de mélancolique dans cette classe chez ces professeurs qui sont... tous des bons professionnels, reconnus. On sent bien que rire, c'est un travail avec un bon lot d'angoisse. Ils sont tous terrorisés à l'idée de se faire piquer une blague, une idée de sketch, ou pire, de faire une blague qui a déjà été faite par quelqu'un et qu'on trouve sur les réseaux sociaux et qui leur aurait échappé. Et surtout, le travail avec un matériel qui est leur vie. Alors, les portraits des uns et des autres dessinés par Camille Bordas sont tous très émouvants. Ils sont plus ou moins empêtrés dans leur vie. On est dans des nœuds névrotiques comme dans un bon film. Ils se débrouillent comme ils peuvent. Alors je sais pas si j'ai le temps de parler, mais deux anecdotes par exemple, il y a un truc qui m'a fasciné parce que j'y avais jamais pensé et pour cause, et vous allez comprendre pourquoi. Le lien entre être une femme, le féminisme et avoir un sac à main, est-ce que ça veut dire d'être toujours obligé d'avoir un sac à main parce qu'il faut toujours penser aux autres? C'est très très finement décrit. Puis il y a aussi un étudiant, j'ai choisi cette deuxième anecdote, un des étudiants qui s'appelle Artie et qui traverse toute cette histoire à essayer d'écrire un sketch drôle mais qui est obsédé par son frère qui vient de disparaître. Frère qui se drogue et qui disparaît quand il se drogue. Et qui raconte très bien l'histoire entre ces deux frères, le frère aîné qui est donc celui qui se drogue et qui est le frère à problème et comment lui se place par rapport à ça. Donc tout ça pour vous dire que ça fait 400 pages, mais c'est pas 400 pages enfermées dans la fac, c'est 400 pages avec plein d'histoires annexes. D'ailleurs, au fait, j'avais dit que le livre appartient à deux catégories, j'allais oublier la deuxième. Ça fait partie pour moi de ces livres où on aimerait vivre, ou de ces œuvres où on aimerait vivre. Il y a des films dans lesquels, à la fin, quand ça se termine, on regrette de pas être avec eux. Et ben là, en refermant le livre, j'étais presque triste parce que ces gens-là n'existent pas vraiment et je les rencontrerai jamais.
Donc quand même, ça veut dire qu'on s'y retrouve avec tous ces personnages et toutes ces histoires.
Oui, parce que enfin, Camille Bordas, eh bien son livre il est super bien construit. On passe d'un personnage à un autre. On suit des quelques arcs narratifs principaux. C'est les habitudes de regarder des séries sur les principales plateformes. Vous arriverez à suivre. Parmi les qualités du livre, on y croise plusieurs générations, les élèves, les profs, mais aussi les parents de ceux-ci. Et on voit aussi comme ça, par les différents prismes, comment évolue la société américaine. On a beaucoup dit, moi, que c'était un roman. J'ai beaucoup lu ça, un roman sur la question peut-on rire de tout. Moi, je trouve que c'est pas faux, mais c'est pas complètement vrai. J'ai trouvé une citation de Charlie Chaplin, qui est une de mes idoles, selon lequel la vie était une tragédie en gros plan, mais que ça devenait une comédie si on prenait un plan un peu plus large. Et je crois que c'est exactement la question que pose ce roman, qui est la question de la bonne distance pour parler des êtres et des événements, qui pose aussi la question du public qui va voir les stand-uppers, qui sont-ils, qu'est-ce qu'on vient chercher dans ces spectacles. À un moment du roman, il y a deux personnages qui dissertent sur les deux derniers mots. Attention, là, c'est le moment où ça devient un peu tragique. Sur les derniers mots qu'il faudrait dire au moment de mourir. Alors après coup, l'un des deux réalise, parce qu'il ne meurt pas, l'un des deux réalise que ce qui compte au moment fatal, j'ai décidé vraiment d'être joyeux aujourd'hui, ce n'est peut-être pas tant de dire quelque chose que d'avoir quelqu'un qui vous parle. Je trouve que c'est aussi ce que dit très bien le titre du livre. Le showman, le stand-upper, la stand-upeuse, ils sont tous là à trouver des sketchs qu'ils prononcent devant des inconnus à qui parler. Camille Bordas est assez fine pour savoir qu'il s'agit aussi de ce que fait l'écrivaine qu'elle est. Et en écrivant cette chronique, j'ai eu une deuxième révélation. Alors qu'on pourrait faire plein d'autres choses à cette heure-là, on est peut-être là aussi tous autour d'une table avec des micros devant nous pour trouver des inconnus à qui parler, celles et ceux qui nous écoutent en FM sur 93.9 ou sur le web. Voilà, est-ce que ma sortie de scène est meilleure que mon arrivée ?
Largement.
C'était pas dur, merci.
Merci beaucoup Christophe, c'était très touchant. Ben, ça a fait rire beaucoup de personnes, alors
je vais commencer par...
Allez.
Hugo, vas-y, je te laisse réagir.
Je sais pas si tu m'as convaincu,
J'aime beaucoup le stand-up et j'aime beaucoup surtout l'humour politique. Donc en même temps, tu m'as grave aussi envie de donner de le lire. Et en même temps, 400 pages, c'est mort. J'ai pas le temps.
Mais il l'a dit, c'est pas 400 pages.
Oui,
c'est 400 pages d'histoire.
C'est 400 pages à lire quand même.
J'ai un mémoire à écrire. Il a même réussi à sortir le mot Netflix dans sa chronique pour dire que c'était facile à suivre. Tu n'as pas d'excuses, Hugo.
Il y aura peut-être une adaptation pour.
Bah, j'attends l'adaptation
peut-être
Netflix.
Peut-être qu'elle le
Mais non, mais en vrai, tu m'as quand même donné envie en termes de sentiments et de réflexion qu'il y a dedans. Mais 400 pages, j'ai pas le temps.
Diane.
C'est drôle, moi, la série, la chronique que tu as faite et le livre dont tu parles, ça m'a fait penser à la série Drôle qui a été faite sur Netflix, enfin, qui a été diffusée sur Netflix. Il n'y a eu qu'une saison et ils ont annoncé qu'il n'y en aurait pas d'autres. Et notamment, au fait que c'est Fanny Herrero qui a écrit notamment 10%, qui a écrit cette série. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que ce soit dans 10%, que ce soit dans Drôle, on a vraiment envie d'être dans la série et d'être pote avec les personnes de vivre le quotidien. J'ai commencé à regarder 10% hier soir et vraiment je regardais la série et je disais j'ai trop envie d'être dans cette agence et de côtoyer ces personnes, etc. Donc ouais, j'ai très envie que en tout cas ce soit adapté et que ce soit mis en scène à l'écran, etc. parce que ça a l'air trop intéressant à découvrir, quoi.
Je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même aussi l'arrivée du stand-up dans la littérature.
Dans ma connaissance,
je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de livres qui l'abordaient. Puisqu'on parle de 10%, je tiens à dire qu'un jour, ici, un invité m'a dit que dans une autre émission, m'a dit que je ressemblais à Dominique Besnier, et depuis, je suis fâché avec lui.
C'est qui, Dominique Besnier?
C'est un agent.
Un vieux monsieur.
Un vieux monsieur. Mais un vieux monsieur du cinéma qui était agent à un moment et très, très connu dans le milieu. Voilà.
En tout cas, Diane, je rebondis sur ce que tu dis. En fait, quand on a envie de vivre avec les personnages, c'est que le pari est largement réussi des auteurs. C'est parce que, pour moi, je trouve que c'est que ces personnes ont vraiment réussi à mettre sur papier ou mettre en image la complexité des personnalités. Et je trouve que c'est le pari le plus difficile à relever quand on crée. Ouais. Et que quand c'est réussi, et ben, en fait, ça provoque ce sentiment violent de vouloir être avec eux parce qu'en fait, on se voit en eux. Mmh. Et je trouve que c'est ça la vraie force de l'art aussi, c'est de connecter les gens avec leurs contradictions, leurs faiblesses. Christophe.
Il y a juste un petit moment où il parle de série dans le roman, il parle de Sex in the City. Moi, je ne sais pas si vous l'avez suivi. Il y a la grande critique qu'ils font à Sex in the City. Il y a ces deux personnages qui discutent et il y en a un qui dit c'est raté parce que des filles qui sont ensemble, elles parleraient forcément de leur mère. Je vous laisse méditer ça.
Jeanne, qu'est-ce que ça t'évoque tout ça?
Ça m'évoque que j'ai l'impression que le stand-up est de plus en plus une industrie qui est étudiée, qui est réfléchie, etc. Et ça me fait vous donner une recommandation pour faire un petit lien avec la chronique de Ryan qui viendra. C'est une série documentaire de France Culture sur le stand-up qui est faite par un journaliste qui s'appelle Romain de Bec-de-Lièvre et qui est passionnante sur cette question de faire des blagues comme un métier et comme une vraie activité intellectuelle. Je vous recommande. Sur l'histoire aussi du stand-up et de l'humour en général.
Trop bien, merci pour la reco. Ryan.
Moi, ça m'a fait vraiment penser au... J'ai eu l'occasion de discuter avec des humoristes, notamment pour ici, j'avais présenté un humoriste se référer aux épisodes précédents. Et je trouve qu'à chaque fois qu'il y a une vraie profondeur quand tu discutes avec eux hors de leurs blagues, en fait, c'est des personnes qui captent bien l'époque, qui ont des choses à dire, qui ont un discours et qui sont pas forcément tout le temps dans la blague, dans la vraie vie. Et c'est ce qu'on voit là dans le livre de ce que j'ai l'impression. Alors c'est pas les 400 pages, c'est pas les 400 prochaines pages que je vais lire dans l'immédiat.
Moi ça m'a donné envie en tout cas, je te rassure Christophe.
Mais je trouve que ça capte bien l'époque et moi je trouve que les stand-upers en fait ils ont beaucoup de courage parce que c'est pas facile d'être sur scène et vraiment de faire des blagues et t'entends un silence ou t'entends des gens rigoler de toi ou en fait c'est très dur, c'est beaucoup de scènes, c'est beaucoup de rodages, ça je m'en rendais pas forcément compte et en fait c'est assez compliqué et en plus avec le plagiat, les vidéos sur les réseaux sociaux, etc. Franchement chapeau aux stand-upers.
Non mais c'est vrai et puis c'est un travail de précision aussi, il y a un mot qui peut soit bien faire passer, soit tout faire capoter à l'inverse, donc c'est vrai que ça demande une très grande rigueur et beaucoup de courage. Merci à toutes et à tous pour vos réactions. Grâce à Christophe et à son touchant témoignage, on vient de parler du roman « Des inconnus à qui parler » de Camille Bordas. Je vous invite à aller le lire si ça vous a rendu curieuse, curieux.
Bande dessinée, jeux vidéo et multimédia.
Cinéma.
C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Diane est fidèle au poste bande dessinée et nous fait toujours voyager avec dans des vies qui ne ressemblent pas aux autres. C'est ça, la force du dessin, c'est tomber dans des histoires qui sont sensibles et c'est toujours Diane qui nous en parle. Et pour aujourd'hui, on va au Liban. Raconte-nous.
s'assassine quand les héros.
Si je vous dis que je suis libanaise, c'est quoi la première chose qui me vient à l'esprit ? Alors vous pensez sûrement en premier à la nourriture, à la fraîcheur d'un taboulé vert, frais, juteux, rempli de persil et de tomates, ou bien à celui d'un kibbeh au potimarron rempli de pignons de pain, ou d'un manaïch avec du labneh chauffé au feu de bois devant vos yeux.
Oh, Diane, tu nous donnes faim là, on a tous faim avec ce que tu nous dis.
Ouais, je sais. Et puis dans un second temps, vous pensez au bombardement régulier de la part d'Israël sur la ville de Beyrouth ou sur la bande de Gaza. Eh bien moi, quand je pense au Liban, je pense à mes souvenirs. Je pense à un peuple résignant, toujours debout malgré les guerres civiles, aux feuilles de vigne de mes tantes, au jardin d'olivier de ma grand-mère, ou encore au mourrier, parfumé et juteux de mon père. Je pense aussi à ce film, Caramel, un film sorti en 2007 qui fait le portrait de 5 femmes travaillant dans un institut de beauté au plein cœur de Beyrouth.
Au cœur de Beyrouth, un salon de beauté où tous les désirs se révèlent. Le destin croisé de 5 femmes. Entre douceur et amertume.
Un film que j'ai vu étant petite et qui a fait partie de mon éducation libanaise, des récits que j'ai découverts en grandissant et qui a rempli le manque d'histoires racontées par mon père. Et puis, récemment, je suis tombée sur cette bande dessinée. Tout, mais pas Beyrouth. Le récit autobiographique de Mathieu Diaz, organisateur pendant de longues années du festival Lyon BD, qui part travailler pendant 4 ans à l'ambassade de France au Liban pour organiser le réseau culturel français à l'étranger. En lisant cette bande dessinée, je ne me doutais pas que j'allais retomber dans des souvenirs. Que j'allais avoir le cœur noué lors de la lecture de certaines planches ou encore que j'allais comprendre qui j'étais profondément. En la lisant, je me suis rappelé que pendant longtemps on m'a dit « Non mais c'est compliqué le Liban ». Et en me replongeant dans cette histoire, j'ai compris. Ce n'est pas que c'est compliqué, Liban. C'est que pour le comprendre, il faut le vivre. Il faut comprendre son quotidien, ses émotions, ses peurs et surtout ses épreuves de résilience. Il faut parler avec la population. Il faut vivre les fils électriques qui traversent les rues. Et c'est ce que fait Mathieu Diaz. Il raconte ses péripéties, son quotidien, entre organisation de festivals du livre, concerts dessinés, mais aussi exercice de simulation à une attaque terroriste ou encore interdiction du film Barbie. À la fin de ma lecture, je me suis penchée sur un des journaux mentionnés dans son récit, notamment la personne qui a fait la préface de cette bande dessinée, Rima Abdulmalak.
Elle est aujourd'hui directrice du journal L'Orient le Jour, quotidien francophone libanais. Et tu as découvert quoi en te penchant sur les contenus ?
Eh bien, je suis tombée sur une pépite, L'Orient la nuit, une émission de radio qu'ils enregistrent chaque semaine, une émission où ils abordent le quotidien des Libanais avec des invités et des sujets passionnants. Comment parler de la guerre aux enfants, comment ne pas devenir fou dans un Liban en crise, ou encore comment garder sa foi dans ce pays. Je dois être honnête, la lecture de cette bande dessinée m'a chamboulée et une question m'est venue à la fin. Qu'est-ce que j'ai en moi de Libanais ? Est-ce que c'est mon amour de la nourriture, ma résilience, mon amour du soleil et de la chaleur ? Et puis j'ai relu attentivement la préface rédigée par Rima Abdulmalak concernant le parcours de Mathieu Diaz. Sa curiosité, sa générosité, son esprit inventif et agile lui ont permis de soulever des montagnes. À partir du premier fil de sa passion pour la bande dessinée, il a déroulé toute une pelote de projets. Autant d'initiatives fédératrices, pensées et menées dans un contexte d'incertitude permanente où chaque événement relève à la fois de l'audace, de la débrouillardise et d'une confiance obstinée dans la force de la culture.
Quand la mort se dessine, moi je dors. Je dors. Oui, je dors.
Et merci Diane pour ce nouveau voyage, encore une fois, dans des cultures qui sont passionnantes. Christophe, qu'est-ce que ça t'évoque, tout ce que Diane vient de nous partager ?
Oh là là, d'abord ça m'émeut. C'est très touchant, c'est très... De toute façon, dès qu'on parle d'exil, ça me bouleverse, donc voilà. Ça va être compliqué. Non, moi, ça m'a surtout rappelé un autre roman graphique ou une autre BD que j'avais lu. J'ai cherché tout à l'heure, de Joseph Kay, qui s'appelait... qui parle du Liban, mais de la scène queer au Liban. Mm-hmm. Ça s'appelait, je crois, L'Intranquille. Moi, j'avais complètement découvert ce pays. On a beaucoup de mal à imaginer... Moi, j'ai jamais été au Liban, donc je peux difficilement parler de la vie là-bas. Et j'avais trouvé que la BD était un super médium, justement, pour découvrir, par son côté à la fois très réaliste, mais en même temps très... Il y a toujours dans le dessin une très grande part de subjectivité, c'est un peu bête ce que je dis, mais j'avais beaucoup aimé ça, voilà. Et j'ai très envie de lire là tout mais pas Beyrouth, parce que je me dis que peut-être qu'en lisant une BD, on va découvrir aussi peut-être des odeurs, mais non, mais c'est ça qui est fou dans la BD quand elle est bien faite.
Et surtout, ce que je trouve intéressant dans cette bande dessinée, c'est qu'il explique aussi c'est quoi la population à Beyrouth. Je l'avais écrit dans ma chronique, mais je l'ai enlevé par souci de de temps, à un moment, il explique qu'il y a 18 communautés différentes qui cohabitent au Liban.
Tu peux juste nous dire ce qu'on a entendu en accompagnement musical.
L'introduction, en fait, c'est l'introduction notamment de Lorient la nuit, l'émission. Et c'est notamment aussi la bande originale du film Caramel, on a entendu la bande-annonce. Et du coup, Caramel, c'est aussi, je trouve, enfin, si vous avez envie de comprendre ce que c'est le Liban, après ça a été tourné en 2007, mais je trouve que c'est quand même très actuel. C'est un peu un portrait aussi de la ville de Beyrouth, de qu'est-ce que c'est aussi de vivre au Liban. Donc, voilà.
Jeanne. Déjà, bravo Diane pour sa chronique, c'était hyper touchant. Je rebondis sur ce que tu disais, que je trouve très beau, sur le fait qu'on ne peut pas comprendre le Liban sans l'avoir vécu. Et j'ai l'impression que c'est un discours que j'entends beaucoup, et moi je ne suis jamais allée au Liban du tout. Et j'entends très souvent des Libanais ou des personnes qui ont visité le Liban qui disent, en fait, justement, voilà, on le comprend quand on le voit, quand on le découvre, quand on rencontre la population, mais on entend souvent que c'est très complexe, etc. Et c'est vrai que d'un point de vue très occidental, français, on comprend pas bien pourquoi c'est complexe. J'ai l'impression que cette parole-là, elle est très précieuse.
Ouais, ça c'est sûr. Rayane.
Un peu tout pareil, merci pour cette chronique et pour ces extraits qui nous font un peu découvrir des œuvres sur le Liban. Franchement, tu m'as conquis, je pense que vraiment c'est une BD que je pourrais lire et qui est très intéressante. Pareil, je trouve qu'effectivement, il faut dans ces moments-là écouter les personnes qui en viennent ou qui viennent de ce pays-là. On a la chance d'avoir, il y a beaucoup de journalistes, beaucoup d'auteurs, soit de la diaspora, soit qui sont directement là-bas. Le podcast Lorient la nuit, il faut citer tout ça et effectivement les écouter, les lire et peut-être même y aller pour comprendre le Liban. Ouais.
Et est-ce que les dessins, l'histoire qui est racontée, c'est, en fait c'est un témoignage de vie, retranscrit vraiment ce quotidien? Est-ce que toi t'as réussi à vraiment te dire oui c'est ça quand tu l'as lu?
Ouais, parce que je trouve que c'est assez, pas dire c'est assez drôle, mais on voit vraiment, il y a une planche vers la fin je crois, où on voit, il y a eu une explosion externe, donc on voit les débris, et puis genre deux planches plus tard il est en train de manger un taboulé avec ses collègues à l'ambassade. Donc je trouve que c'est beaucoup ça, et ça m'a fait penser, il y a une créatrice de contenu qui s'appelle Ezil et sa copine est libanaise, et genre c'est drôle parce qu'elle a fait un vlog au Liban, elles sont allées à Beyrouth, et dans genre les deux premiers, même pas les 30 secondes de son vlog, l'introduction c'est ça, c'est un tableau électrique. Et on voit le tableau électrique avec des fils de partout et tout. Et
oui, je l'ai vu.
Et voilà. Et sa copine a dit, et il n'y a pas d'électricité au Liban. Et t'es en mode, c'est vraiment la définition de quand même beaucoup de bazar. Et en même temps, un bazar un peu organisé de... Oui, mais c'est le bazar, mais c'est comme ça que ça s'organise de fait. Donc, je trouve que ça retranscrit beaucoup ça, quoi.
Ah, super. Hugo.
Moi, je dois dire que ta chronique m'a beaucoup touchée, Diane.
Merci.
D'une manière générale, t'es très forte pour faire passer des émotions dans tes chroniques. Par contre, je dois dire que j'ai pas pensé d'abord à la nourriture. J'étais en mode OMG, crazy lord drop de la vie de Diane. Non, vraiment, Diane, dans ses chroniques, quand elle parle, on peut reconstituer des histoires. Je trouve que t'es vraiment très forte.
Merci.
Pour la dernière de la saison, j'en profite, je fais des compliments. mais du coup, tu m'as vraiment donné très envie de lire la BD et d'aller dans le pays, en fait, comme tous les autres. Je trouve que j'ai eu la chance de la feuilleter un petit peu. Effectivement, le dessin est assez... épuré en termes de couleurs, et pourtant ça a l'air d'être passionnant. J'ai vu qu'il listait la carte du Liban avec les 18 communautés et comment ça s'entremêle. Ça a l'air effectivement d'être un joyeux chaos.
Et en même temps, Mathieu Diaz, il va au Liban pour répandre la culture, etc. Et en même temps, c'est un pays qui est très cultivé en soi, qui a beaucoup d'événements, etc. Donc c'est assez intéressant de voir les deux cohabiter, quoi.
Merci beaucoup pour vos réponses. Merci à toi Diane pour ce partage. On vient de parler de Tout mais pas Beyrouth, la bande dessinée de Mathieu Diaz et JB. Merci d'avoir écouté cette première partie de C'est dans l'art. Pour les curieux et curieux, on continue de découvrir de nouvelles œuvres et personnalités, place aux arts médiatiques, au cinéma et aux arts de la scène. À tout de suite.